Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Le 10 juin prochain, entre 15h et 22h sur les Jalichouguet, a lieu la nuit du handicap. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la responsable de la nuit du handicap, Anne-Laure Roussy. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Juste à côté de vous, il y a Carolina, vous êtes intervenante pour cette nuit du handicap. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et pour être totalement complet, Isabelle Rousselin, vous êtes organisatrice aussi de cette nuit du handicap et ancienne auxiliaire de vie. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Merci à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais pour commencer que vous puissiez nous parler de la genèse de cette nuit du handicap. Comment elle vous est née, cette idée ?
Alors, en fait, la nuit du handicap a été créée à Paris car, en fait, ils ont voulu organiser les 50 ans de la revue Ombre et Lumière. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils ont décidé de continuer de proposer cette fête chaque année. Donc, au début, ça avait lieu dans quelques villes et aujourd'hui, on en est à plus de 20 villes qui organisent dans toute la France, mais aussi dans les dom-toms.
Donc, à Toulouse, c'est pas la première année que ça a lieu.
Alors, à Toulouse, c'est la troisième. On a été un peu bouleversés par les gilets jaunes une fois, le Covid, etc. Donc, voilà, cette année, on fait la troisième. Et...
Ça consiste en quoi, cette nuit du handicap ? Alors, comme le nom l'indique, ça a lieu la nuit. Voilà, ou en tout cas en fin de journée, début de soirée. Mais comment ça s'organise en suivant ?
Alors, la nuit du handicap, en fait, c'est une grande fête pour faciliter la rencontre entre les personnes qui sont en situation de handicap et les personnes qui ne le sont pas. Et l'objectif, c'est de changer son regard. Donc, ça commence vers 15h jusqu'à 22h. Et il y aura trois parties. Une partie plutôt handisport, une partie avec des stands. Dans les stands, il y a des associations qui font de la sensibilisation ou bien des stands de jeux. Il y aura du yoga du rire, un atelier écriture, des bulles de savon géantes, des constructions géantes de Kapla. L'idée, c'est de proposer un maximum d'activités pour que tout le monde puisse s'y retrouver, s'y rencontrer. Mmh. Et puis, il y a aussi une partie scène avec des spectacles proposés par des personnes en situation de handicap, donc de la danse, des chants, de la musique. Et puis j'ai oublié notre stand un peu chéri, c'est les chiens médiateurs.
Alors dites-nous en plus, notre stand chéri, les chiens médiateurs, les chiens guides d'aveugles, j'imagine.
Alors, et non, en fait, c'est des chiens qui ont été élevés pour faciliter la rencontre et aider les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes isolées, les personnes âgées, à communiquer avec les autres et puis à être un peu mieux avec soi-même.
Et voilà. Vous disiez, l'objectif, c'est de... je vois Carolina qui lève la main, peut-être qu'elle veut dire un petit quelque chose. Carolina, on vous écoute.
Alors, je reviens juste un petit peu sur la genèse, parce que je fais partie de l'OCH, donc à l'origine, c'était fondé par l'Office chrétien des personnes handicapées. Mmh. Aujourd'hui, la Nuit du handicap a son association indépendante. Mais à l'origine, le slogan, c'était « la lumière d'une rencontre ». Ou « la rencontre soit une fête », pardon, je confonds les deux. Et donc, c'est quand même de permettre aux personnes qui ne sont pas spécialement touchées par le handicap de base de rencontrer des personnes handicapées autrement que dans un besoin, en fait. Pas juste pour les faire manger, voilà, mais là, qu'elles puissent se rencontrer ailleurs et que cette rencontre mène à la fête. Donc, c'est pour ça qu'à la base, c'était la nuit. Après, il y a eu le Covid, on a fait l'après-midi, puis ça commence. Puis il y a aussi toutes les contingences par rapport aux personnes en situation de handicap, parce que quand on est dans un centre, admettons, dans un institut, c'est difficile de se déplacer la nuit. Donc, c'est pour ça que ça s'est aussi un peu déplacé dans l'après-midi. Voilà. Je repasse la parole à Anne-Laure.
Merci.
Je vous repose peut-être ma question, oui, parce que vous l'avez oublié, Anne-Laure aussi, vous êtes responsable de la nuit du handicap. Vous disiez, l'objectif, c'est de faire rencontrer des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne le sont pas. C'est parce que vous avez le sentiment que dans le quotidien, dans la vraie vie, ce n'est pas le cas.
Et oui, en fait, les personnes en situation de handicap sont souvent dans leurs instituts. On vient les voir parfois, mais on a un problème quand même de mixité de la population. les personnes en situation de handicap ont un taux de chômage qui est très important. Mmh. Et ça, c'est, je pense, dû à la méconnaissance. Si on apprenait plus facilement, plus régulièrement aux enfants à côtoyer des personnes en situation de handicap, dans les écoles notamment, apprendre que le handicap n'est pas une fatalité, mais qu'on peut travailler ensemble, après, il y aurait beaucoup moins de discrimination. Et donc voilà, nous, l'objectif, c'est de valoriser les talents des personnes en situation de handicap et puis de faire en sorte qu'un maximum d'enfants viennent à cette fête pour jouer ensemble et se rendre compte qu'on peut jouer ensemble, qu'on peut parler ensemble et qu'on peut découvrir beaucoup de richesses chez les autres.
Isabelle Rousselin, je vous laisse prendre le micro. Vous, vous êtes ancienne auxiliaire de vie, vous êtes occupée pendant plusieurs années de personnes en situation de handicap. Cette rencontre, elle ne se fait pas régulièrement, donc c'est important aussi d'aller vers les personnes handicapées, de les mêler à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, parce que tout le monde a à s'apprendre.
En effet, moi, quand j'ai commencé le métier d'auxiliaire de vie, j'étais un peu impressionnée par les personnes avec un handicap. Et j'ai découvert que c'est des personnes comme les autres, avec leurs forces et leurs faiblesses, et surtout avec leurs talents. Alors je suis très fière que plusieurs des gens chez qui je suis intervenue puissent contribuer à l'événement. Carolina, bien sûr, mais aussi John, qui est un auteur pour jeunesse, qui a écrit un très beau livre que j'ai offert à mon neveu et qui lui plaît beaucoup. Et donc il viendra le raconter. C'est un livre sur la différence, bien sûr, parce que c'est une thématique qui touche les personnes en situation de handicap très personnellement.
Carolina, je vous laisse prendre le micro. Isabelle Rousselin nous disait, vous intervenez lors de cette nuit du handicap. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous allez y faire ?
Alors moi, on m'a proposé de faire un témoignage un petit peu sur... Je ne sais pas encore.
Vous ne savez pas encore. Sur votre histoire, peut-être ?
Alors, non, moi, ce que j'ai... Enfin, le message que je dis souvent, c'est que... c'est que... être handicapée... Enfin, moi, je suis différente. Mmh. Et que... au regard de ma foi, parce que je suis catholique, eh bien, c'est pas grave. Enfin, c'est pas... Moi, j'aime pas porteur de handicap. Je le porte pas, je suis. Et donc, de dire, mon corps différent, en fait, est aussi quelque chose qui reflète la beauté de Dieu, ce qu'il a voulu pour moi, et que c'est à travers ce corps-là, et pas un corps dont que je me rêve, que ma vie doit se dérouler, et que... notamment ma dépendance fait que je rencontre des gens, ma petite taille fait qu'on me porte facilement. c'est ça, et c'est pas, j'aime pas la résilience, je déteste ce mot, c'est très philosophique. Vraiment, pour moi, c'est sur la foi que ça se passe, et je voudrais pas être autrement, vraiment. Donc c'est peut-être le message principal que j'ai à donner. Après, c'est aussi pour le sport, parce que moi, je fais du sport... mais pas en handisport. Handisport, c'est un peu les professionnels du sport. Mmh. Moi, c'est... comme il y en a qui vont à la salle de sport... nous, on n'a pas accès à ces trucs-là parce que les machines ne sont pas adaptées. Et il y a un programme qui s'appelle Activeo qui propose aux non-professionnels de faire du sport tout simplement en faisant du cardio, en faisant des choses à la maison. Et moi, j'avais envie de dire, c'est possible de faire du sport, peu importe le handicap. Cardio, il suffit de faire quelque chose qui est difficile pour nous. Si on le fait avec un rythme, c'est déjà du cardio en fait. Donc moi, je pensais pas du tout pouvoir faire du cardio parce que j'ai l'idée de gens qui courent sur un tapis, donc j'en suis pas là. mais en fait, j'en fais et ça me rend heureuse vraiment parce qu'après il y a tout le jeu des hormones et ça me rend heureuse, ce qui fait que du coup j'ai envie d'en refaire, ce qui fait que du coup je vais vers les gens parce que je me sens bien et c'est un cercle vertueux en fait. Donc voilà, ça aussi que j'avais envie de transmettre.
Carolina, les auditeurs ils ne vous voient pas, est-ce que vous pouvez nous décrire ce corps que vous aimez tant?
Alors moi j'ai la maladie des os de verre, donc je mesure pas 1 mètre, je suis sur fauteuil roulant. Et je suis malvoyante en plus, donc c'est un peu difficile pour moi d'entrer en relation quand je connais pas les gens parce que je sais pas me positionner au niveau du regard. Et voilà. Mais ce qui choque d'emblée, c'est d'abord ma petite taille, très petite taille. Voilà. Mais je trouve que je suis bien proportionnée, du coup je m'aime bien.
Et vous avez raison. Alors aussi, je vous laisse reprendre le micro. Vous disiez, il y a plusieurs ateliers qui seront proposés lors de cette nuit du handicap du 10 juin sur les allées Jules Guesde. Ces ateliers, ils sont animés par des personnes en situation de handicap.
Alors, en fait, il y a un peu de tout. Il y a des associations qui vont intervenir, qui seront des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et puis, il y a des associations qui ont souhaité mettre en valeur les personnes qu'elles accompagnaient. Donc, on a le sourire de Simon. Ils vont faire un atelier de tissage à la laine. Donc, ils vont apporter un grand métier à tisser. Et tout le monde va pouvoir faire un petit morceau de tissage ensemble. Il va y avoir le CESDA, va mettre aussi les personnes en situation de handicap auditif en valeur. C'est eux qui vont animer le stand. J'oublie peut-être, tiens, je te passe le micro, Isabelle.
Alors, il y a une autre bénéficiaire Carpe Diem qui va intervenir. Donc, Audrey, elle est en fauteuil, mais elle est prof d'art plastique. Donc, elle va faire animer un atelier d'art plastique. Voilà. La sono, ça va être fait aussi par quelqu'un qui est handicapé. Il y a un bon mélange, une belle collaboration entre les valides et puis les personnes handicapées. Pour faire plaisir à Carolina.
Et pas porteur de handicap.
Alors, moi, je vais juste ajouter. En fait, la nuit du handicap, elle est différente en fonction de la ville. Ce qui fait la nuit du handicap, c'est ce qu'on en fait. Parce que j'ai participé aux réunions de préparation avec l'OCH. Donc, je peux dire. Et donc, ça dépend de si on veut bien y participer, que ce soit personne en situation de handicap ou collaborateur, elle sera à la mesure de ce qu'on donne, en fait. Si personne ne veut y participer, moi, il a fallu me traîner un peu, j'avoue, il n'y aura personne. Et donc, quand les personnes en situation de handicap, par exemple, disent que c'est nul, c'est parce qu'ils ne sont pas là. Donc, voilà. Si vous ne voulez pas que ce soit nul, il faut venir. Et si vous avez un talent, sans être handicapé, hein, le but, c'est pas de faire c'est pas la foire, quoi, de montrer tout ce qu'on fait, c'est vraiment la rencontre. C'est vraiment ça, le but de la nuit du handicap. C'est la rencontre et la fête.
Ouais. La rencontre et la fête, en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Anne-Laure aussi, je vous laisse reprendre le micro pour continuer à nous développer peut-être le programme. On a fait le tour.
Alors, le programme, là, j'ai un peu de mal, là, parce que je n'ai pas pris mes notes, mais on va commencer par de mémoire, ça y est. On va commencer par... D'abord, l'ouverture de la nuit du handicap. Il y aura le témoignage d'un jeune qui a décidé de créer son association. Il est handicapé et il a créé son association pour sensibiliser dans les écoles. L'association, c'est Handitim. Et dans les écoles et autres, les entreprises, etc. Donc ça, c'est un très beau témoignage. Et puis, il y aura ensuite beaucoup de danse. Donc, il y a des associations qui vont faire de la danse contemporaine, surtout. La danse urbaine, un peu hip-hop, et puis il y aura une flash dance. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est en fait un mélange de personnes en fauteuil et des personnes qui ne sont pas, et puis on danse ensemble. Et en fait, donc on va avoir la vidéo qui va arriver sur Facebook, et je vous invite à vous trémousser devant vos écrans pour vous entraîner et venir nous rejoindre. Et tout le monde est invité et à la hauteur de ses capacités, enfin selon ses capacités, je veux dire. Moi, j'ai participé à la première répétition, c'était une catastrophe pour moi. Heureusement, il n'y avait pas de miroir, donc j'étais tranquille. Mais voilà, c'est une chorégraphie assez facile, mais il faut se lancer, quoi.
Il faut se lancer, et bien on se lance justement dans une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants.
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd, qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux, qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Anne-Laure Rossi, responsable de la Nuit du Handicap qui a lieu le 10 juin prochain sur les allées Jules Guesde à Toulouse. Carolina, en situation de handicap et intervenante lors de cette Nuit du Handicap, et Isabelle Rousselin, organisatrice de la Nuit du Handicap et ancienne auxiliaire de vie. Carolina, je vous laisse prendre le micro qui est juste devant vous. Qu'est-ce que les personnes en situation de handicap ont à nous apporter ?
Alors, c'est marrant, on m'a posé la même question pour la diaconie. Du coup, j'y ai réfléchi. Moi, je pense que c'est un peu comme un révélateur de ce à quoi on ne pense pas, juste par leur présence. Par exemple, moi, je vois avec mes aides à domicile, en me poussant, en s'occupant de moi, ils se rendent compte qu'en fait, les trottoirs à Toulouse, ils ne sont franchement pas très bien faits. Voilà, y a plein de dénivelés. Bon, c'est un peu bête, mais du coup, ils s'en rendent compte en nous poussant. Après, il y a des choses un peu plus profondes. Par exemple, si on veut aller faire une procession, on n'a pas vu qu'en fait, là, il y avait un trottoir pour la procession. Je dis ça pour... j'ai fait une procession mariale il n'y a pas longtemps et je me suis dit heureusement que ma copine en fauteuil électrique, elle n'était pas là. Donc ça, c'est pour les aspects techniques, mais ils sont franchement importants. Pour la messe, enfin les lieux, voilà. Et puis après, peut-être aussi, enfin moi je pense que ça peut aider à relativiser. Personnellement, j'ai des problèmes de femmes, de jeunes femmes, comme tout le monde. Mais pour l'instant, je suis pas encore en dépression. Et parce que après j'ai vécu d'autres choses et cette force de vie qu'on a. Je crois qu'elle peut aider d'autres personnes à relativiser leurs propres problèmes. Ce n'est pas une comparaison. Ce n'est pas, regarde, toi, t'as ça, elle a un problème plus important, tu ne devrais pas te plaindre. Ce n'est vraiment pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on s'arrête sur des choses et notre vie, en fait, elle est plus grande que ça. Elle est plus grande qu'un problème... d'argent, quand on se plaint d'avoir le SMIC, bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais nous, on touche pas beaucoup plus que le SMIC, en fait, et on vit. Bon, je dis pas qu'on vit bien, je dis qu'on ne vit pas mal. Et donc, des fois, c'est ça, juste apprendre à, relativiser un petit peu. Moi, la grande grâce que j'ai dans ma vie, et je rends grâce à Dieu pour ça, c'est que j'ai des amis Voilà, rien que ça, est-ce qu'on se pose 2 minutes pour se dire mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir des amis? Il y a des personnes qui n'ont pas d'amis. C'est triste, c'est terrible. Enfin, voilà, donc à mon sens, il y a ça. Et puis après, l'art de s'adapter. Alors ça, c'est vrai que, bah, voilà, quand on est handicapé, on apprend à s'adapter très vite. On ne va pas faire un séminaire de 3 jours pour s'adapter parce qu'il faut le faire tout de suite. Et ça, je crois que ça aide aussi.
Et c'est pas fatigant tous les jours de s'adapter ?
On ne s'adapte pas tous les jours non plus. Heureusement qu'il y a des routines qui sont bien. On a un métro à Toulouse qui fonctionne bien. Mais dès qu'il y a un ascenseur en panne, moi je vois le drame dans les yeux de mes aides à domicile. Oh, l'ascenseur, il est en panne, comment on fait ? Bah écoute, on va reprendre le métro. Et puis on va prendre celui d'après en fait. Ou alors on fait un aller-retour. Ça nous fera arriver au quai d'en face. Et c'est vrai que c'est pénible, mais c'est quand même pas en soi la fin du monde. Voilà, donc c'est des choses un peu comme ça. Voilà, faut être un peu vif d'esprit.
Isabelle Rousselin, je vous laisse prendre le micro. C'est fort ce que dit Carolina en disant il faut apprendre à relativiser.
Non, c'est hyper, je trouve qu'elle est hyper forte, hein, Carolina. J'ai beaucoup appris avec elle. C'est vrai que, oui, moi, de voir la joie de certains bénéficiaires, ça m'a... En fait, j'ai appris au contact des personnes chez qui j'intervenais que, en fait, l'important dans la vie, c'est de vivre.
Tout simplement.
Ouais. C'est tout simplement. Donc, se lever le matin, s'habiller, faire les courses, et le faire dans la joie, si possible, de le faire... Voilà, c'était un grand enseignement. Et le deuxième, c'était que la dépendance peut être une bonne nouvelle. Et alors ça, pour moi, c'était qui avait voulu toujours me débrouiller toute seule. C'était aussi une grande leçon. Et voilà, c'est bien parce qu'on fait des rencontres, qu'on apprend des nouvelles façons de voir, de faire. Et enfin, c'est fou cette histoire du métro, de faire un aller-retour pour récupérer l'ascenseur qui marche. Je suis bluffée. Enfin, c'est... Cette imagination, cette créativité, moi, ça m'a beaucoup apporté, ça continue à m'apporter.
Alors aussi, je vous laisse prendre le micro. Quel est votre regard sur cette question ?
Oui, alors moi, c'est vrai que cette histoire de dépendance, ça m'a beaucoup touchée parce que quand j'ai eu mon fils aveugle, je me suis posé beaucoup de questions sur, il aura toujours besoin des autres, comment on va faire, etc. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, en parlant avec mon entourage, je me suis dit, mais c'était une chance, parce que la dépendance crée de l'interdépendance. Alors, moi, quand j'ai eu mon fils tout petit, il avait un comportement qui était un peu dérangeant, et du coup, tout le monde nous regardait dans le métro, et j'étais assez blessée, en fait. Et j'avais envie qu'on puisse me considérer... comme tout le monde, en fait. Je dis pas le mot normal parce que j'aime pas ce mot, mais... Et puis après, en parlant autour de moi, on m'a dit, non, mais en fait, tu renvoies aux autres la faiblesse. Ce que ton fils n'a pas, il ne voit pas, il est considéré comme faible, et donc les autres ont peur de cette faiblesse parce que ça leur envoie leur propre faiblesse. Le fait qu'on est tous humains et qu'on va tous, on va tous mourir. Donc, ça nous met en inconfort. Donc, réfléchir sur cette faiblesse, c'est aussi très intéressant. Moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre en côtoyant des personnes en situation de handicap parce que ça nous fait réfléchir sur notre faiblesse. Et ensuite, mon fils a grandi, il était plus dans l'interaction, il s'est intéressé aux autres, il parle avec les autres, il se pose des questions. Et là, j'ai eu l'impression que les autres, ils avaient un peu un comportement dément, c'est-à-dire qu'ils disaient « Ah, chic, je vais pouvoir interagir avec quelqu'un qui est différent, je vais pouvoir apprendre des choses de lui. Et, » et il va m'apprendre plein de choses sur lui, sur le monde et sur moi que je ne peux pas comprendre puisque j'ai la vue. Donc, du coup, voilà, l'interdépendance, moi, je trouve que c'est d'une beauté de dingue, quoi.
Carolina ?
Moi, j'avais envie de réagir juste sur l'histoire du regard par rapport au métro, parce que c'est quelque chose qui... là, je ne le vis plus, mais il y a quelques années où ça arrivait souvent. Mes accompagnants, en fait, qui étaient plus des amis que des aides à domicile à l'époque, étaient toujours... agacée, énervée du regard des personnes dans le métro sur moi. Or, moi, je ne vois pas, donc je ne les vois pas. Et en fait, du coup, ça a commencé à être pesant pour moi, en fait, le regard de mes propres amis. Ah oui. Donc, il a fallu que je leur explique que, oui, je suis différente, en fait. Et que, du coup, bah, forcément, quelqu'un de différent, ça interroge. Alors, il y a plusieurs types de regards. Il y a des regards, la pauvre. Il y a des regards qui se demandent ce qu'elle a. Il y a des regards qui, oh, elle est trop forte. Enfin, vraiment, il y a plein de choses dans le regard de quelqu'un. Puis, il y a des paroles, parfois, qui vont avec. Mais... voilà, bah oui, t'es différent, on te regarde, c'est normal en fait. Donc je leur ai dit, mais en fait, est-ce que ça te pose pas un problème toi? Enfin, est-ce que ça te renvoie pas quelque chose à toi en fait? Ma présence fait que toi aussi, du coup, t'es un peu mise en lumière. Est-ce que c'est pas ça le problème de base? Et du coup, je les ai un peu fait réfléchir là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, on me le dit moins. Que les regards sont gênants. Alors, après, j'ai plus de professionnels autour de moi qu'avant. Mais voilà, je voulais dire ça.
Isabelle Rousselin, le regard sur les personnes en situation de handicap, souvent un regard de pitié, mais qui est dû aussi à la méconnaissance, hein, on le disait tout à l'heure.
Alors, moi, j'avoue que j'ai pas réfléchi à la question. Moi, ce qui m'a touchée quand je suis intervenue dans le cadre de Carpe Diem, c'est que en fait le regard des autres dépend aussi de la propre du regard que la personne en situation de handicap porte sur le monde. Et j'étais très touchée par j'intervenais chez Mélanie qui a eu son handicap s'est déclaré quand elle avait 20 ans et elle s'est retrouvée en fauteuil, mais elle avait un contact avec les enfants qui était très beau parce qu'elle se retrouvait à l'étage des enfants. Et elle leur souriait, donc eux, ils voyaient plus que des gens, mais ils voyaient aussi un sourire d'adulte. Et c'était magnifique, c'était vraiment très beau, et je pense que ça lui a beaucoup apporté. Ça lui a énormément apporté parce qu'elle s'était coupée de tous ses amis. Et là, elle a retrouvé d'abord les enfants, et puis après, elle a retrouvé, bah, grâce à un GEM, des personnes en situation de handicap avec lesquelles elle chemine aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que cette question du regard, je pense que c'est d'abord le regard qu'on porte chacun sur nous-mêmes. Il me semble.
Moi, je voudrais juste dire quand même qu'il y a plus de gens bien que de gens malveillants. C'est vraiment important de le dire parce qu'on aime bien se critiquer. Ah oui, les personnes sont ci, sont ça. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'aident. Alors, c'est vrai que je suis assez souriante. Des fois, je fais des trucs que les gens, ça doit les faire rire un peu. Comme par exemple, parce que je suis tout le temps en retard, donc je mets mon rouge à lèvres dans le métro. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais je veux dire, il y a plus de gens qui nous aident. Parfois, ça peut être maladroit, mais ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire,
c'est l'intention qui compte.
Voilà, que de mauvaises personnes. Et ça, il faut le dire, les Français ne sont pas mauvais. Quoi. Voilà.
Carolina, justement, comment vous arrivez à garder ce sourire, cet état d'esprit optimiste?
Moi, je dis que c'est un don de Dieu, parce que c'est vrai que je l'ai depuis que je suis gamine. Mais vous savez, moi, j'ai perdu la vue. Enfin, j'ai perdu la vue depuis toute petite, mais là, récemment, j'ai vraiment perdu un œil. Et donc, je suis complètement aveugle de l'œil gauche. Et ça a été un peu dramatique. Tout d'un coup, je me suis dit, oh là là, je ne pourrais plus me voir dans le miroir. Enfin, mes problèmes de base, ce n'était pas de voir le monde et sa création, c'était de me voir moi dans le miroir. Comme quoi, on n'est pas mieux que vous. Hein. Et puis, un jour, je ne sais pas, tout d'un coup, comme ça, je me suis rendu compte que je voyais mon sèche-linge. Et je me suis dit, mais quand même, tu n'es pas encore aveugle. Tu arrives à voir ton étendoir chez toi. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour ça. Pour ce petit peu de vue que j'avais encore. Et quand on arrive à, plutôt qu'à voir ce qu'on a que ce qu'on n'a pas, j'ai commencé à m'émerveiller en fait, et à m'émerveiller de nouveau. Et c'est ça en fait. Ok, il y a plein de choses que j'ai pas, mais déjà ça me manque pas. Et en plus, par contre, ce que j'ai, j'en profite à fond. Voilà, et c'est ça qui me donne de la joie.
Carolina, on disait tout à l'heure que... Les personnes en situation de handicap ont la même vie que beaucoup d'entre nous. Votre vie ressemble à quoi? Votre quotidien, c'est quoi?
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit comme vous, parce que ce n'est pas à cause de mon handicap, mais ne travaillant pas. De fait, je n'ai pas des horaires...
De travail, mais voilà, de comme travail. Certains qui ne travaillent
Après,
pas.
Après, j'ai les mêmes préoccupations que des jeunes femmes de 36 ans.
C'était ma question.
J'aime sortir, j'aime aller dans des bars. Je suis plutôt de nuit, moi, donc si vous voulez me parler...
Comme la nuit du handicap,
après
justement.
Après 20 heures, voilà. Et Voilà, j'ai des petits copains, ça marche pas. Quand ça marche pas, on pleure un coup, on boit un coup et on se relève. Mmh. Voilà, ça c'est ma devise, hein. Tu pleures un coup, tu bois un coup, tu te relèves. Mais j'aspire à un travail, là où les gens veulent plus travailler. Qu'est-ce que les handicapés peuvent apporter à la société ? Ça, par exemple. Nous, on rêve de travailler, on veut travailler. Là où on veut faire la retraite très tôt, tout ça, bah nous, on voudrait travailler, en fait. Mmh. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui dénote. Parce qu'on a compris que le travail, ça participe à la dignité de la personne. Et donc, qu'on vous paye, enfin, qu'on reconnaisse votre savoir-faire en le rémunérant, c'est pas pareil que de le reconnaître par du bénévolat, même si c'est déjà bien. Mais à un moment donné, parce qu'on se dit, bah, en fait, je suis quand même pas assez bien pour qu'on aille jusqu'à me rémunérer, quoi. Mmh. Et donc, voilà. C'est parce qu'il y a une personne non-voyante qui aimerait développer son activité et qui en parle beaucoup, beaucoup, notamment dans un rêve qu'elle a exprimé sur Ose la rencontre. Et ça, je n'y avais pas pensé dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça peut être un sacré témoignage pour cette société qui dénigre le travail aujourd'hui. Et nous, on aimerait vraiment travailler.
Vous avez aussi des activités.
Oui, bah après moi je suis. Alors moi je suis responsable nationale des intercesseurs pour Mère de Miséricorde. On prie pour ces mamans qui hésitent à donner la vie ou qui parfois ont posé des actes d'avortement et qui sont bien souvent en souffrance, ces mamans. Donc nous on prie pour elles. Je fais partie de la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées, dont je suis la co-responsable avec Arnaud Mouret. Et puis voilà, j'essaye de faire connaître le projet Ose la rencontre pour l'OCH. Mmh. Parce que l'OCH, quand même, a fait beaucoup de choses pour moi. Et notamment, ils nous ont permis d'aller à Paray-le-Monial. C'est vraiment quelque chose de très grand. Mmh. À l'occasion, justement, des 50 ans de Ombre et Lumière, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Je pense que peut-être que je fais d'autres choses, mais
c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien.
Je vais animer la chapelle des veilleurs pour le printemps de le printemps de la diaconie qui aura lieu du 12 au 14 mai. Et donc voilà, moi j'anime la chapelle des veilleurs, et si vous voulez vous inscrire d'ailleurs, n'hésitez pas, on a besoin de se relayer. Et parce qu'on va prier pour les personnes qui vont déposer des intentions de prière dans des petites cartes qui seront disposées un peu partout. Dans les bars, on va prier pour vous. Mais pour qu'on ne soit pas que trois à prier, on a besoin de relais. C'est comme Moïse, il a eu besoin de son frère pour lui tenir les mains. Parce qu'à un moment donné, les mains tombaient. Quoi.
Tout de suite, on fait une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants.
Même si le corps a mal grandi, même s'il grimace quand il sourit, même si tu as peur de sa nuit, même s'il ne sait pas bien parler, et après tout, qu'est-ce que ça fait? Regarde-toi, dis-toi qu'il est pareil, pareil, pareil. Même si le miroir de ta vie te renvoie ce qu'on t'a appris, le bonheur n'a pas d'interdit. Donne-lui tes yeux dans les siens, donne-lui ta main dans sa main, et dis-toi que vous êtes bien. Pareil, pareil, pareil. Pareil, pareil, fais-le jouer dans ta cour. au nom de tous les enfants différents, au nom de leurs parents, et contre les yeux lâches des handicapés du cœur, contre les adultes bulles enfermées dans leur égoïsme, un jour, on changera tout, c'est promis. N'écoute pas les rois parler, tu n'es pas né que pour gagner. La vraie grandeur, c'est partager. Un sourire, un mot, un regard, pour ensoleiller sa mémoire. Qui sait si tu seras plus tard pareil, 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 même cœur et même amour. Pareil, 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 fais-le jouer dans ta cour. Pareil, pareil.
Radio Présence dans la Cité Mariale 96. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec Anne-Laure Rossi, responsable de la Nuit du Handicap, Isabelle Rousselin, organisatrice, qui fait partie en tout cas de l'équipe d'organisation de cette Nuit du Handicap, et Carolina, qui est intervenante. Et je rappelle, cette Nuit du Handicap, elle a lieu le 10 juin de 15h à 22h sur les Allées Juliette à Toulouse. Anne-Laure Rossi, comment ça s'est mis en place, cette Nuit du Handicap, toutes les étapes préparatoires?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait organisé la Nuit du Handicap l'année dernière avec un petit groupe de bénévoles. Et dans ce groupe, tout le monde avait en 2022-2023 d'autres priorités. Donc il y en avait une qui attendait un bébé, etc. Donc tout le monde a dit, moi l'année prochaine, je ne pourrais pas continuer. Et donc moi, je me suis dit, c'est dommage qu'on parte tous, et donc moi j'avais envie de reprendre un peu la peur au ventre d'être responsable, mais je me suis dit je me suis sentie appelée quoi. Et donc au début je me suis retrouvée un petit peu seule puisque je devais créer mon équipe, donc ça a été à la fois essayer d'en parler à un maximum de personnes autour de moi et puis commencer les démarches avec contacter des associations, voir ce que chacun pouvait proposer, mais un peu dans une démarche on fait un peu comme l'année dernière, etc. Et puis, j'ai une copine qui m'a dit, mais écoute-moi, ce que je voudrais, c'est, je veux bien, au début, elle me dit, oui, je vais peut-être un peu participer, je ne sais pas, puis on s'est rencontrés, et en fait, l'enthousiasme est passé, et elle m'a dit, ok, en fait, je suis hyper, je trouve ça génial ce que tu proposes, donc je veux bien participer, mais je voudrais, ce serait super qu'on puisse rêver d'abord ce projet. Et elle m'a dit, j'ai une technique pour ça, c'est le rêve du dragon, donc j'y connaissais rien, mais... Voilà, ça nous a permis de poser vraiment les choses, ensuite de se dire, voilà, réfléchir sur nos rêves. Et donc, Isabelle nous a rejoint après, on a eu une réunion comme ça, toutes les trois, à se dire, mais voilà, à donner toutes nos idées, et c'était très, très enthousiasmant et très lumineux. Donc, ça nous avait vraiment du bien. Et après, en fait, cette joie, elle a été, je trouve, assez contagieuse, parce qu'on a, au fur et à mesure, qu'on rencontre des nouvelles personnes qui se disent « Ah, je vais peut-être donner un petit peu de mon temps. » En fait, ils disent « Non, en fait, je ne vais pas donner un peu de mon temps, je vais vraiment m'investir. » Et donc voilà, là, on a une dernière bénévole. En plus, elle s'appelle Gracieuse et elle porte très bien son prénom. Et voilà, on a une réunion mardi qui était juste extraordinaire, quoi. Et donc, j'ai mal dormi après.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est beaucoup de responsabilités.
Alors, c'est un peu de la responsabilité parce qu'il y a à la fois tout ce qui est partenariat avec les associations. Ensuite, on voudrait accueillir au mieux les personnes, donc il y a toute une partie logistique. On voudrait avoir un maximum d'ombre, donc des barnums. On recherche les barnums, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Donc voilà, c'est la logistique. Ensuite, la communication, on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient présentes, personnes en situation de handicap ou pas, et qu'elles restent 5 minutes ou 5 heures, c'est pas grave, mais on veut qu'il y ait un maximum de monde. Donc il y a plein de petits volets comme ça, et puis l'année dernière, on avait fait une erreur, c'était qu'on s'était dit, on avait tout organisé, mais on n'avait pas organisé les repas. Et donc, à 8 heures, les gens sont partis, parce qu'ils ont dit, bah oui, mais nous, on va manger. Donc, on est, ah bah oui, bah non, ça va pas. Donc, l'année prochaine, il faut absolument prévoir les repas. Donc, voilà, là, on est en train de chercher des partenaires pour les goûter, pour les dîners, pour les food trucks, etc. Et voilà, c'est un peu de boulot, ouais.
Sacrée organisation, en tout cas.
Ouais.
Isabelle Rousselin, je vous laisse prendre le micro. Concrètement, vous, dans la partie organisation, vous vous êtes chargé de quoi ?
Alors, moi, j'essaie de faire ce qu'il faut faire au moment où on est. Donc, j'ai contacté les personnes que je connais dans le monde du handicap. J'essaie de récupérer ce qu'il faut comme matériel. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que chaque réunion, on se réunit tous les 15 jours, le mardi matin. Et à chaque fois, c'est une joie de se rencontrer, de vivre déjà entre nous dans la préparation ce qu'on voudrait partager largement, même très largement, le 10 juin avec un maximum de personnes, en quelque situation qu'ils soient. Donc oui, c'est surtout ça qui... Bon, moi, je ne sais pas, j'essaie d'amener de la joie de...
Et de votre temps déjà.
De mon temps, oui, c'est vrai.
Isabelle, elle a réussi à nous y amener, nous, quelques-uns de Carpe Diem. Je crois que c'est la première fois. Parce que moi, ça fait plusieurs fois qu'on me sollicite et à chaque fois, je dis non.
Et pourquoi vous dites non alors, Carolina?
Parce que j'ai trop de choses à faire, parce que je sais pas, j'avais pas envie. Enfin, voilà, il y avait toujours un truc. Et là, je lui dis non aussi, d'ailleurs. Voilà, comme elle est toute joyeuse, toute souriante, puis elle vous amène petit à petit et tout. Et c'est son talent. Parce que c'est pas facile de mobiliser des personnes handicapées aussi.
Ah oui.
Hein. Ça,
et pourquoi c'est compliqué alors ?
C'est compliqué parce que je sais pas trop pourquoi. On a un peu de mal. En fait, on a un peu de mal aussi à faire fraternité entre nous. Faut dire ce qui est.
Ah oui.
Voilà. On a envie de rencontrer des gens, mais pas forcément des handis, quoi. Parce que, bon, voilà. Pour nous, c'est pas un hobby, en fait. On le vit tout le temps. Du coup, je dis pour certains, alors peut-être d'autres qui sont en recherche de rencontres. Et ils peuvent pas parce qu'il faut se déplacer, ça demande des accompagnants, ça demande plein de choses. Mais c'est vrai que c'est pas facile de mobiliser cette population, je reconnais humblement. Et voilà, donc ils ont beaucoup de mérite.
Je voulais aborder un dernier sujet avant de clôturer cette émission. C'est l'optimisme qui est frappé par ces personnes handicapées. Carolina, comment vous l'expliquez déjà, ce sourire aux lèvres en permanence ?
L'optimisme, alors moi... moi c'est ma foi, mais c'est vrai que j'ai pas toujours été catholique, donc c'est pas que ma foi, c'est, je sais pas, je pense peut-être que j'ai reçu beaucoup d'amour quand même, de la part des soignants, parce que j'ai grandi dans des centres, mes amis sont très importants, l'amitié pour moi est quelque chose de très important, et puis j'apprécie le soleil, enfin voilà, je veux dire...
Et on est servi en ce moment.
Voilà, c'est ça, et puis... Tant qu'on est... Enfin, des fois, je suis fatiguée, tout ça, puis je dis, on dormira quand on sera mort. Je veux dire, il faut vivre quand on est vivant. C'est pas... On vit pas pour demain, on vit aujourd'hui, quoi. Et donc, voilà. Puis on est habitué. Moi, je suis habituée, j'ai la maladie des os de verre, donc je me suis cassée. Une fracture, pour moi, c'est pas... Enfin, c'est douloureux et tout, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Donc, quand on se casse, le corps se répare. Donc, je suis habituée à ça. Avoir des déceptions, à me prendre des portes. Ça a forgé mon caractère. Du coup, je suis un peu têtue. Et ça, c'est je rends grâce à Dieu pour ça. Je pense que c'est pour ça que... Puis il y a les gènes de ma maman.
Vous disiez, la foi m'apporte beaucoup. Dans quelle mesure elle vous apporte ?
Elle m'apporte au sens où je me sais quand même profondément aimée de Jésus. Et ce qui change par rapport à ma vie d'avant, c'est que lui, ça changera pas. Les amis, ils m'aiment beaucoup, mais après, ils se marient, ils partent, ils font des enfants, ou alors... C'est Thérèse d'Avila qui dit ça, hein. Tout passe, Dieu ne change pas. Et donc ça, moi, ça m'a apporté une sécurité affective qui fait que... Voilà. Mais c'est pas juste Jésus t'aime, c'est que je l'ai vu agir aussi dans ma vie. Et ça, le fait qu'il agisse. Après, il ne résout pas tous mes problèmes. Des fois, je l'engueule un peu quand même. Parce qu'il est comme un gars comme ça qui a les mains et les pieds liés. Alors, mais il nous sourit, il est là. Et puis, il me dit, je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin tout le temps sur le plan humain. Mais ce que je te donne, c'est moi. Moi, je me donne à toi. Et est-ce que ça te convient? Alors, des fois, je lui dis oui. Enfin, je lui dis un grand oui. Puis, des fois, je lui dis, ouais, mais je suis pas un ange. Hein, alors, il ne faut pas que du spirituel. Il faut aussi un peu du concret. Mais il le fait. Sincèrement, il le fait. Et c'est ça qui me fait que je m'inquiète pas trop.
Isabelle Rousselin, quel est votre regard sur le témoignage de Carolina?
Bah, je trouve ça très beau quand elle dit l'accueil de la fragilité, quand elle dit... Oui, tout ça. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que quand Jésus a lavé les pieds des apôtres, il a dit, c'est un exemple que je vous donne pour que vous fassiez vous-même comme moi j'ai fait pour vous. Je crois que prendre soin d'une personne avec un handicap, c'est un peu comme lui laver les pieds. Enfin, c'est vraiment se mettre dans les pas de Jésus. Mmh. Et moi, j'ai accompagné un parcours Alpha cette année et une personne de ma table s'occupe de personnes en situation de handicap et elle a pu partager à la table tout ce qu'elle recevait de bienveillance, de force, d'accueil de la fragilité de la part des personnes chez qui elle travaille. Et tout le monde avait envie de travailler dans ce secteur, qui est pourtant très difficile. Mais non, c'est vrai que c'est un témoignage, moi, qui me donne de la force, oui, quand je suis fatiguée ou, oui, quand je cherche des bonnes excuses.
Anne-Laure Rossi, je vous laisse prendre le micro pour clôturer cette émission. D'un point de vue très pratique, la nuit du handicap, on l'a dit, on le répète, c'est le 10 juin, 15h-22h sur les allées Jules Guesde à Toulouse, plutôt un beau lieu en tout cas pour accueillir cet événement. Pour retrouver le programme, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Expliquez-nous.
Alors, il y a un site internet qui s'appelle nuitduhandicap.fr. On a une page Facebook et maintenant une page Instagram. Donc là, on va donner toutes les informations sur ces deux pages. Voilà, on est en recherche de bénévoles pour... encore pour l'organisation éventuellement, parce qu'on accueille tout le monde dans cette belle équipe de bénévoles avec une belle énergie. On a aussi besoin de bénévoles pour le jour J. Et aussi, on a besoin éventuellement de petits dons. Les dons sont défiscalisés à 60%, donc n'hésitez pas, ça nous aidera beaucoup.
Si vous deviez conclure cette émission, qu'est-ce que vous diriez?
Vous êtes tous invités, venez tous.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci à toutes les trois pour votre témoignage. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.